on va tout de suite passer à la première table ronde. Donc, je vais demander aux intervenants, donc cette table ronde agriculture, immobilier, énergie, donc des enjeux sectoriels de la transition énergétique. On a proposé à Ella Etienne, CEO de Green Solus, Nabil Hamama, président de Thulet, Gilles Nozière, fondateur d'Oz Énergie, et Jean-Luc Dufour, CSO de Turbo Céréales, de répondre à quatre questions, de présenter leur activité sur quatre questions. On dispose d'à peu près 45 minutes. On va essayer de vous laisser quelques minutes pour interagir avec eux, poser des questions, échanger avec eux à l'issue de ces présentations. Alors, je vais commencer par l'ordre inverse. La première question, c'est en fait quels ont été les besoins que vous avez identifiés et qui sont à l'origine de la création de votre offre et des et donc, du coup, quelles sont les innovations majeures que vous apportez à votre écosystème. Et là, je vais commencer par toi.
Oui, alors bonjour à tous, c'est la team de moi, directrice générale et associée de Green Solus. Alors nous, on est un acteur dédié à la transition vers une ville durable et inclusive, donc dédié au secteur immobilier et urbain. Et on mobilise quatre hubs d'expertise au service de cette transition. Une activité de conseil et d'accompagnement, une activité liée à la pédagogie, la sensibilisation des acteurs sur la question de la transition environnementale vers l'immobilier et la ville de demain, donc à savoir durable et inclusive, ville pour tous. Un hub d'expertise dédié à la finance responsable appliquée à l'immobilier et l'urbain, et c'est la raison de ma venue aujourd'hui. Nous sommes convaincus qu'un des nerfs de la guerre pour réussir cette transition, c'est accélérer la réallocation des fonds financiers vers les porteurs de projets et les projets responsables de l'immobilier. Donc on est très actifs sur les questions d'ISR, d'investissement socialement responsable, les démarches de responsabilité de fonds dédiés aux actifs immobiliers, ainsi que l'application des outils de finance responsable, obligations vertes, ESG, Performance Index Lines, pour les actifs immobiliers. Donc vraiment une expertise très forte et dédiée au secteur immobilier. Et enfin, dernier hub d'expertise sur la question de la production et la diffusion de contenu de haut niveau sur les sujets de transition énergétique environnementale dans notre secteur, sachant qu'aujourd'hui, sur ces sujets, on entend beaucoup de choses et avoir accès à une information fiable, à une data fiable, c'est pas quelque chose d'évident. Donc avec mon équipe, on s'efforce de traiter ce sujet-là. Alors il y a un sujet plus spécifiquement qui nous intéresse, et c'est la thématique aujourd'hui de la table ronde, c'est la question du changement climatique par rapport au secteur immobilier et urbain, et plus précisément la question du risque climat. Alors, ces dernières années, on a beaucoup parlé, et les reportings aujourd'hui sont plutôt mûrs et matures sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais la question de l'adaptation à la réalité climatique, qui est déjà là, elle est un petit peu moins abordée et reste émergente, en particulier dans notre secteur, qui est l'un des plus vulnérables à la question du risque climat. Et si vous avez eu l'occasion de parcourir ou de lire des synthèses des rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui nous incite très fortement à limiter les hausses de température à 2 degrés, malgré l'ensemble de nos efforts qu'il faut poursuivre sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour la pérennité de nos activités économiques et des activités financières, la question de l'adaptation et de la prise en compte du risque climat est un point clé. Alors j'aime bien les chiffres et je voudrais en partager quelques-uns avec vous sur le sujet. Les pertes financières liées aux aléas naturels, si on prend l'année 2017, c'était 300 milliards de dollars. On estime que sur les 5 prochaines années, les pertes financières liées aux aléas naturels, ce sera 1000 milliards de dollars. En 2018, un des acteurs financiers majeurs de la place au niveau international, BlackRock, a perdu 90 milliards de dollars liés aux actifs naturels et une grosse partie liée à des investissements dans des actifs physiques. Donc quand on prend, quand on tient compte de ces chiffres, la question du reporting et de la prise en compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est une chose. La question de savoir comment on prend en compte le risque climat, notamment l'identification des impacts du changement climatique sur les actifs immobiliers, mais aussi leur traduction précise en impact financier et l'intégration de cette prise en compte du risque climat dans la gestion des risques opérationnels des acteurs immobiliers, détenteurs de parcs de patrimoine, mais également d'acteurs qui ne sont pas nécessairement, dont le cœur business n'est pas nécessairement l'immobilier. Ça, c'est un point clé qui sera, qui est déjà attendu par les investisseurs institutionnels. Étant donné cette, en partant de ce constat-là, avec mon équipe, on a développé un outil technologique fondé sur notre expertise et notre connaissance granulaire de ce que c'est qu'une opération immobilière, de la connaissance du bâtiment. Et comme le précisait monsieur en introduction, le vrai sujet pour éviter le greenwashing, l'ESG washing, le RSE washing et de pouvoir vraiment travailler sur la question de l'impact, c'est cette capacité à pouvoir arriver au niveau granulaire. Et surtout de faire en sorte que le sujet du climat ne soit pas un sujet en plus des autres risques. Aujourd'hui, le risque climat, pour le secteur dans lequel je suis active, est en train de devenir un risque opérationnel très fort, donc un risque financier. C'est plus un sujet, périphérique, mais ça devient un sujet cœur business pour l'activité. Donc c'est dans ce cadre-là que on a développé notre approche.
Merci. Jean-Luc.
Oui, eh bien je vais prendre la parole. Donc je représente Turbo Céréales, Marcel Turbo, qui a créé Turbo Céréales il y a 2 ans. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une crise climatique, mais aussi une urgence en ce qui concerne l'agriculture. Vous lisez tous beaucoup d'articles, je pense. Vous avez peut-être vu aussi le dernier film d'Edouard Bergeon, Au nom de la terre, qui met en évidence un suicide par jour dans l'agriculture. C'est 31% des agriculteurs qui sont en état de surendettement et 20% des agriculteurs qui devraient disparaître cette année. Donc les chiffres sont gravissimes. Et en même temps, l'agriculture subit un agribashing qui est tout à fait intolérable. Et si on a vu sur les champs, mais pas les vrais champs, mais les Champs-Élysées, je dis encore des agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui, ils crient au secours, ils crient à l'aide, parce qu'il n'y a rien pour les aider. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont l'objet d'un contrat tripartite dans 80% des cas, qui les lie à la banque éponyme de la filière agricole. Et mais c'est écrit, je te vois avoir un sourire ironique peut-être, mais c'est dans le film d'Edouard Bergeon aussi, on le voit très très bien. Et la coopérative. Et dans ce contrat tripartite, ils sont pieds et mains liés. Ils ne peuvent ni négocier les ventes de leur récolte, puisque le prix est fixé dès le semis, ni négocier avec les fournisseurs, puisqu'aujourd'hui, payant les fournisseurs entre 3 mois et 6 mois en retard, ils n'ont pas les meilleures conditions. Donc de là, l'idée qui est venue chez Marcel Turbo, et moi je l'ai accompagné maintenant depuis une petite année, c'est de créer une place de marché. Et au-delà de cette place de marché au sein de laquelle les acteurs peuvent échanger, c'est de créer une néobanque agricole et citoyenne. Alors néobanque agricole et citoyenne, ça veut dire beaucoup de choses, il n'y a rien, mais je vais développer. Alors c'est d'aller chercher dans la partie citoyenne l'épargne, donc l'épargne des citoyens. Et on va aller même plus loin parce qu'on va aussi solliciter les investissements au niveau d'une émission obligataire qu'on va lancer dans les prochaines semaines. Et avec les fonds que nous allons collecter, nous allons pouvoir financer non pas 30% de la récolte d'El Semi, mais 70%. Avec 70%, on désendette l'agriculteur, on lui permet de retrouver sa dignité, on le repositionne dans son rôle d'entrepreneur, puisqu'un agriculteur est à beaucoup de choses un entrepreneur, même si on l'ignore un peu aujourd'hui. Et on va lui permettre justement, dès ce premier jour, dès la signature et le financement que l'on va lui accorder, d'engager la transition sociale. C'est le premier point. Et le but, donc, c'est de désendetter, donc, comme je l'ai dit, l'agriculteur. Dès le jour où il signe le contrat avec nous et qu'on le finance, il va aussi s'engager dans la transition environnementale et énergétique. Comment ? Alors, nous allons nous appuyer sur la blockchain. Et ça tombe bien parce que je vois Loïc Bougeot qui est là, qui va participer à une prochaine table ronde tout à l'heure. Et c'est grâce à son expertise avec PureChain que nous allons nous appuyer sur la traçabilité agricole. Et nous allons justement avoir tous les éléments pour pouvoir accompagner l'agriculteur vers la transition énergétique et environnementale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'agriculture ne touche que 410 millions des aides qui sont allouées justement à la transition climatique sur les 41 milliards, ce qui représente, vous l'avez calculé, moins de 1%. Donc aujourd'hui, il faut que l'on accompagne justement beaucoup plus loin. Et on a la chance aujourd'hui, encore, je le répète, je suis désolé, d'avoir deux banques, deux grandes banques qui veulent nous accompagner justement dans notre émission obligataire.
Merci. Juste, en fait, juste pour préciser, Ella et Jean-Luc ont répondu ont tous les deux répondu aux quatre questions que j'avais proposé de poser. Je ne vous en ai énoncé qu'une seule. Donc, juste les questions, en fait, envisagées, c'était donc, les besoins identifiés à l'origine de l'élaboration de l'offre, les acteurs et populations auxquels les offres s'adressent, la mesure de l'impact des solutions sur la transition énergétique et écologique. Et la dernière, c'est comment est-ce que leur offre, solution ou activité s'insère dans l'écosystème financier, quels sont les partenariats envisagés ou en place, et les challenges potentiels, challenges au sens défis, risques et insertion dans un écosystème avec des acteurs déjà en place. Juste pour repréciser. Merci d'avoir anticipé mes questions. Donc je passe la parole à Gilles Nozière de Aux Énergies.
Est-ce que je réponds à la première question uniquement ou
comme tu veux. Les quatre, comme ça, on aura le temps aussi d'échanger avec l'audience.
D'accord. Donc, bonjour, merci de nous accueillir. Je suis donc Gilles Nozière, je suis fondateur et dirigeant de Aux Énergies. Aux Énergies, on est une société d'économie d'énergie et d'amélioration du confort par l'optimisation, donc sans travaux, des bâtiments et principalement des immeubles tertiaires. On existe en tant que start-up sur notre solution qui est à base d'intelligence artificielle et de capteurs communicants. Depuis 2016, on est une quinzaine de personnes. Et aujourd'hui, notre solution Optimzen est déployée sur 3 millions de mètres carrés, principalement d'immobilier tertiaire, pour le compte de grands institutionnels, banques, assurances notamment. Alors, en quoi on répond aux besoins clients? En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire des économies d'énergie, la solution qui vient naturellement à l'esprit, c'est faire des travaux. Or, en tant que bureau d'études, historiquement on était bureau d'études jusque 2016, on a encore une activité de bureau d'études mais qui est marginale par rapport à notre activité. En tant que bureau d'études, on avait constaté que les travaux avaient beaucoup d'inconvénients. Bon, d'une part c'est assez coûteux, deuxièmement on dérange les occupants, troisièmement on n'est pas certain forcément des résultats attendus. Voilà. Donc ça a des inconvénients pour le propriétaire, par exemple il va falloir faire des remises de loyer. Des fois, les travaux ne sont même pas possibles parce que les occupants ne veulent pas, tout simplement. Ça représente un certain nombre d'inconvénients. Et dans le même temps, on avait constaté qu'un bureau tertiaire, il consomme à peu près autant qu'il soit occupé ou pas, finalement. Ce qui est assez intriguant parce que l'inoccupation d'un bâtiment tertiaire, c'est de l'ordre des deux tiers. Les deux tiers du temps, un bâtiment tertiaire est inoccupé. Et en fait, c'est donc, tout le sujet, finalement, où on a commencé à réfléchir à ces solutions-là. Avant, à partir de 2012 à peu près, on s'est dit, bon, on va essayer de trouver une solution à base donc, de technologies qui sont les capteurs communicants et l'intelligence artificielle couplée à des modèles physiques qui permettent de modéliser le bâtiment et d'intégrer l'intermittence d'occupation dans la conduite, chauffage, ventilation, climatisation des équipements, sur les abonnements, etc. Et donc, quand on sait que le chauffage, par exemple, une économie d'un degré sur le chauffage, c'est réputé faire 7% de l'économie. On voit les enjeux et qu'on arrive à avoir des résultats assez intéressants sans forcément faire de travaux. Alors, notre solution, donc on l'a développée, elle comprend des capteurs. On installe des capteurs dans un bâtiment, on n'a pas besoin de mettre 50 capteurs. On a des mesures. Notre modèle se cale en 3 semaines à peu près. Et au bout de 3 semaines, on est capable de comprendre la dynamique du bâtiment. Et ce faisant, on est capable de produire des feuilles de route de réglage par saison, été, hiver notamment, et dans un deuxième temps, de sortir des feuilles de route par semaine en fonction des prévisions météo. Et quand on sait que la variabilité climatique est de plus en plus importante, on voit bien qu'il y a aussi des enjeux par rapport à ce pilotage fin des bâtiments. Les résultats qu'on obtient, c'est 25% d'économie d'énergie en moyenne, une amélioration du confort importante. En fait, on mesure plutôt le taux d'inconfort, parce que les gens ont plutôt tendance à se plaindre qu'à dire que c'est super bien réglé. Donc, en fait, on divise le taux d'inconfort par deux, et le taux sans travaux. l'intérêt de la solution, c'est que comme elle est sans travaux, elle est rapide à déployer, elle ne dérange pas les occupants, bien au contraire, et elle a un temps de retour de 6 mois, c'est-à-dire que chaque année, elle coûte moins que ce qu'elle rapporte en économie d'énergie. Sachant que, donc voilà, un petit peu le résultat des courses, donc, on est, en gros, par rapport à la question initiale qui était en quoi répond aux besoins, on est une solution alternative aux travaux, finalement, pour améliorer l'efficacité des énergétique des bâtiments, tout en améliorant le confort. C'est-à-dire que c'est fromage et dessert. Ce n'est pas, comme souvent on considère, les économies d'énergie au détriment du confort. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tenable, ce discours-là. L'homme fait partie de la planète au même titre que les autres individus vivants. Donc, il n'y a pas de raison de le défavoriser inutilement, sachant que le progrès permet aujourd'hui de faire les deux sans attenter au confort des occupants. La fonction d'un bâtiment étant quand même fondamentalement d'abriter des gens, qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Ce n'est pas en soi de faire des économies d'énergie. Hein. C'est une amélioration, c'est une optimisation.
Merci Gilles. Donc on va passer la parole à Nabil. Et à l'issue des présentations, vous aurez le temps de poser quelques questions.
Je n'ai pas répondu aux autres points. Tu veux répondre aux autres points, c'est le même temps.
Ouais,
je fais rapidement. Oui. La deuxième question, c'était quoi ?
Les acteurs et populations auxquels donc, ce sont les gestionnaires de balles.
Alors, la valeur ajoutée, nous, alors, par rapport à cette question-là, donc, quels sont les différents clients, les parties prenantes ? Les parties prenantes, c'est les propriétaires, les occupants, les gestionnaires et puis les mainteneurs. Et en fait, l'idée, c'est que finalement, notre valeur ajoutée à nous, elle n'est pas essentiellement dans les économies d'énergie. Les économies d'énergie permettent d'avoir une solution à coût négatif. Mais la valeur ajoutée, quand on y réfléchit, pour les propriétaires, c'est quoi ? C'est l'obsolescence réglementaire de leurs actifs. Aujourd'hui, la loi Elan impose 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Or, si l'efficacité énergétique n'est pas au rendez-vous, il y a un risque majeur pour les propriétaires fonciers d'avoir une baisse des loyers parce que les bâtiments ne pourront plus être loués et d'avoir une baisse des actifs parce qu'ils ne seront plus réglementairement efficients. Donc là, on parle de valeur vénale du patrimoine et pas uniquement d'économie d'énergie. Pour les occupants, l'intérêt, c'est non pas les économies d'énergie qui sont marginales dans leur compte d'exploitation, mais c'est la productivité de la masse salariale, pour parler de manière un peu libérale. Mais le fait d'avoir une température qui est maîtrisée, un niveau sonore qui est maîtrisé, un taux de CO2 qui est maîtrisé, permet que les gens travaillent dans les meilleures conditions, donc on va baisser l'absentéisme, etc. Le tout avec une solution en coût financée, plus que financée par les économies d'énergie. Pour les mainteneurs, c'est des contrats de performance énergétique, donc ça leur permet d'atteindre les objectifs de contrats de performance énergétique et de fidéliser leurs occupants. Et la dernière question, c'était
L'insertion de l'écosystème.
Donc l'écosystème, alors les difficultés peut-être qu'on a eues, je tiens juste à préciser ça, en fait. Alors, on est dans l'innovation, donc on est forcément dans le changement de paradigme. Donc ça prend du temps, donc ça c'est une difficulté qu'on a dès lors qu'on a une solution alternative aux solutions naturel, ça prend du temps de convaincre, etc., de prouver qu'on a effectivement 25%, on a des témoignages de beaucoup de clients qui le démontrent. Et le deuxième sujet, c'est un sujet réglementaire, c'est-à-dire qu'on a eu un effet antiproductif de la réglementation. Le décret tertiaire qui était sorti en mai 2017 avec Ségolène Royal, qui imposait à l'époque de faire 25% d'économie d'ici 2020, il a été abrogé 2 mois après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a vitrifié complètement le marché. Toutes les sociétés foncières qui avaient commencé à faire des choses se sont dit, on attend la prochaine réglementation qui va nous demander des choses, donc surtout on ne fait rien. Et donc pendant 2 ans, ça a complètement vitrifié le marché. Bon, ça nous a obligés à aller sur d'autres cibles comme les occupants. On a installé l'autorité des marchés financiers, bon, pas loin d'ici, etc. Mais plutôt sur un aspect occupant, on a été vers les gestionnaires, l'Indexity, etc. On a été vers les mainteneurs. Mais finalement, le marché des foncières, qui est le marché principal, finalement, a été vitrifié pendant 2 ans. Donc c'est toujours intéressant d'observer ça. Je pense que maintenant, ça ne va pas se réenclencher. Bon, il y a la loi Elan. Au niveau européen, on a décrété l'urgence climatique.
Vous avez surtout le décret tertiaire qui est publié en octobre.
Voilà, il est en publié. Donc voilà, on espère qu'il ne va pas être abrogé.
Non, là, il est parti pour rester. L'arrêté va bientôt sortir.
Bon, bah, espérons le voir.
Merci beaucoup. Alors, j'essaie de répondre à toutes ces questions, si je me rappelle du tout, évidemment. Alors, je m'appelle Nabil, je suis fondateur de Clay. Comme l'argile, tout simplement, mais le mot était pris, donc on a mis un Q à base du C. Le besoin, en fait, pour répondre au niveau du besoin, cette start-up, en fait, a été fondée après avoir observé, littéralement, la crise sociale du logement, principalement. Donc, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de mal logement en France. C'est une définition très large de mal logement. C'est des personnes qui vivent dans des hôtels sociaux, dans des logements insalubres, en situation de surpeuplement ou qui subissent la précarité énergétique. Et ça, c'est le deuxième point sur les gens de l'environnement. C'est qu'un Français sur cinq souffre de précarité énergétique. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se chauffer. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça leur coûte trop cher, tellement leurs logements sont énergivores et mal isolés. L'habitat, en l'occurrence, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre et la consommation de 25% de l'énergie produite en France chaque année. À l'échelle du monde, c'est la même consommation énergétique. Ça veut dire qu'on a un vrai enjeu au niveau de l'habitat. Et le point qui est important au sujet de l'habitat, et je pense que tout le monde a pu faire, enfin, est conscient aujourd'hui que la transition écologique en reviendrait de notre société doit aller de pair avec la transition sociale de celle-ci. On a pu le voir avec les épisodes avec des gilets jaunes en l'occurrence, c'est-à-dire imposer des réglementations à des populations qui sont déjà en difficulté, c'est pas réellement la solution et ça fait plus de barrières et de réfractaires au changement qu'autre chose. Avec Clay, on a développé un concept, un produit qui s'appelle le micro-immobilier. Le micro-immobilier, c'est un actif programmé sur blockchain qui représente la fraction d'un logement, 1%, 2%, 5%, qu'on achète pour se loger ou pour investir. On va prendre un exemple simple. Vous achetez du micro-immobilier pour vous loger, on va dire vous achetez 10% de celui-ci, vous donnez accès à la totalité du logement sans avoir besoin d'acheter l'ensemble du logement. Donc vous n'avez pas à faire toute forme de discrimination, vous vous donnez le droit d'y vivre, vous êtes à la fois locataire et primo-accédant. Parce qu'à tout moment, vous pouvez racheter le micro-immobilier que compose votre logement, en passant de 10 à 15, et devenir un petit peu plus propriétaire. Si vous possédez, par exemple, au fur et à mesure, 20% de votre logement, votre loyer était de 1000 euros, eh bien, vous économisez 200 euros par mois. Du coup, votre loyer est à 800 euros, et par conséquent, ça vous revient moins cher de vous loger. De l'autre côté, en achetant du micro-immobilier pour investir, vous réalisez un investissement qui est locatif, qui est totalement géré par une structure. Donc c'est quand même un investissement classique en bourse, on va dire. Totalement, de la même manière, vous investissez tout simplement, le risque est maîtrisé et géré par Clay. Vous avez un marché secondaire pour revendre votre micro-immobilier pour récupérer votre capital. Et pour la toute première fois, vous réalisez un investissement immobilier qui est non spéculatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pariez pas sur la hausse du prix immobilier, ni sur sa baisse. Vous avez une protection de votre capital qui vous permet de simplement le récupérer comme un PEL, de l'épargne classique. Et l'autre point aussi qui est important, c'est que vous réalisez à la fois un impact social et environnemental. Pourquoi? Parce que votre micro-immobilier et votre financement, que vous soyez en particulier ou institutionnel, vous permettent de créer de la valeur sociale, mais aussi verte. Vous accompagnez la transition sociale et écologique de l'habitat. Social, parce que comme je vous l'ai dit, vous luttez contre le mal logement, vous facilitez l'accession sociale et progressive à la propriété, à la médiane basse de revenus qui ont des difficultés à se loger, et vous limitez la gentrification également. Sur le point de vue environnemental, les flux monétaires, en septembre dernier, étaient de 1000 milliards à destination de l'habitat. On ne sait pas dans quel type d'habitat. Enfin, si, on le sait. La majorité des acquisitions immobilières aujourd'hui, ce sont des logements anciens. Près d'un million de transactions ont été réalisées principalement et exclusivement dans de l'ancien. L'ancien qui est très énergivore. C'est-à-dire que les flux monétaires aujourd'hui que l'on crée dans notre société sont orientés sur un habitat qui nuit à notre environnement. Nous, ce qu'on fait avec l'aide, c'est qu'on vient le flécher, ces flux monétaires. Les logements qui intègrent notre plateforme sont au minimum de classe D, sur la classe DPE. Et nous allons même encore plus loin en venant rénover des logements qui nous sont proposés par des personnes en situation de mal logement ou qui souhaitent accéder à la propriété, et nous le rénovons pour améliorer leur classe énergétique. C'est là où vous créez, avec votre investissement, de la valeur verte qui est partagée avec l'occupant, mais également vous en tant qu'investisseur. Dernier point, et là c'est la cerise sur le gâteau, je vous ai parlé de gentrification, mais les populations qui sont de revenus modestes ou des ménages populaires sont constamment éloignées des bassins d'emploi, des lieux d'infrastructure, des lieux de culture. Et par conséquent, ils doivent utiliser les transports. Vous les voyez sur le périph' tous les matins, sur les autoroutes, bondés, à essayer de rejoindre leur lieu de travail. Pourquoi? Parce qu'ils habitent trop loin de leur lieu d'emploi. Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'un tiers des gaz à effet de serre qui sont émis proviennent à la fois de l'habitat et du transport. Les rapprocher dans le lieu de travail, ces populations qui sont par exemple aides-soignants, qui ne peuvent pas faire de télétravail, parce que ça n'existe pas encore, le moyen de don d'ubiquité n'a pas été créé, d'ailleurs pas peut-être une fintech ou une société pour le faire. Mais voilà, ils ne peuvent pas bénéficier des privilèges que certains ont de pouvoir bosser dans des espaces de coworking ou faire du télétravail et ne pas avoir besoin de se déplacer. Ces populations doivent se rendre dans leur lieu de travail et en plus n'ont pas de solution pour vivre à proximité. et nous, nous leur permettons. Et en mesure d'impact, on le permet également parce qu'on vous fournit en fait les gains, les économies de gaz à effet de serre qui ont été réalisées par votre investissement. Et pour reprendre ce que vous disiez sur GreenSolus, c'est cette granularité que permet le micro-immobilier qui permet de remonter cette information-là. Vous savez littéralement où est votre argent, vous savez littéralement où est votre capital, et vous avez de la valeur économique qui est créée parce que vous gagnez un loyer, c'est un rendement de 3% qu'on vous fournit. Vous avez un impact social, donc vous avez de la valeur sociale qui est créée parce que ce capital est destiné à la bonne population, celle qui en a besoin, celle qu'on n'équipe pas, celle qui n'a pas d'inclusion financière, celle qui ne peut pas créer de patrimoine. Celle-ci, vous les aidez littéralement avec votre épargne. Et puis, vous créez de la valeur verte parce que votre capital est orienté sur les bons habitats. Vous permettez littéralement de les rénover et leur permettre de vivre plus près des endroits où ils se rendent tous les jours. Je pense avoir fait le tour.
Très bien. Merci beaucoup, Nabil. Donc, on va avoir quelques minutes. Donc, vous constatez, ces quatre solutions, en fait, elles adressent sous différents angles le même problème. Enfin, ce problème global, transition énergétique et écologique, donc sous différents aspects économiques, sociaux, financiers. Je vais maintenant passer la parole. Passer la parole à la salle. Vous avez des questions adressant l'une ou l'autre des sociétés. On peut peut-être commencer par dans l'ordre d'intervention, GreenSolus. Est-ce que quelqu'un souhaiterait des précisions sur l'offre et le modèle?
Bonjour, merci pour votre présentation. Bernard Billon, je suis directeur de l'Open Innovation de BNP Paribas. Je voulais savoir un petit peu, pour revenir un peu sur votre offre, ce que vous proposez. Vous avez parlé notamment de finances responsables dans l'immobilier, de la réallocation de portefeuille. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu votre offre sur ce sujet?
Oui, alors je vous ai pris l'exemple de l'outil Climate Risk. Alors sur la partie finances responsables, en fait, on a trois sujets qui nous intéressent et sur lesquels on agit auprès des acteurs. Une approche sustainable investment, donc c'est comment est-ce que les acteurs financiers peuvent monter des fonds avec des démarches de responsabilité. Donc quand je dis démarches de responsabilité, c'est des démarches ESG, environnementales, sociétales et de gouvernance, qui soient en phase avec la réalité de terrain du développement des actifs immobiliers. Pour vous donner un exemple très concret, actuellement nous accompagnons un gros acteur de l'assurance qui met en place des fonds de dette. Donc on parle de fonds de 600, 700, 800 millions d'euros avec une dynamique de rachat de créances hypothécaires où in fine l'objectif de ce fonds est de financer des actifs immobiliers tertiaires à Paris en première couronne qui soient à haute performance environnementale et à fort impact sociétal. Alors une fois qu'on a dit qu'on souhaite investir dans des actifs responsables sur le plan environnemental et sociétal, qu'est-ce que ça signifie en matière de grille de sélection des actifs, de grille d'évaluation? Donc ça c'est un exemple très concret d'accompagnement qu'on est en mesure de faire. Je pense aussi que c'est important d'avoir en tête qu'actuellement dans l'univers de la finance verte, de la finance durable, de la finance responsable, on a une sémantique qui est très variée en termes de mots utilisés. Et revenir à la définition des mots pour préciser ce qu'on entend en termes de méthodologie et de définition de manière plus large, ça me paraît essentiel pour éviter tout risque de greenwashing, ESG washing. L'ISR, c'est pas la même chose que l'ISR au sens d'investissement socialement responsable, c'est pas la même chose que impact investing. Pourquoi parler de finance responsable plutôt que finance durable? Un actif vert, qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce qu'on est juste sur le pilier énergie ou sur un actif qui a une empreinte environnementale vertueuse plus forte? Donc, quelles sont les autres thématiques en plus de l'énergie qu'on regarde? Les matériaux, l'eau, l'économie circulaire. De quoi on parle quand on évoque un actif vert? L'impact sociétal au niveau d'un actif immobilier, qu'est-ce que ça recouvre? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Quels sont les indicateurs? Et ça, c'est un point très important à avoir en tête et qui se travaille avec les acteurs financiers à leur côté, dès l'amont, quand on se pose la question de savoir comment on s'y prend pour une démarche de responsabilité. Dans ce cadre-là, je suis également convaincue qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue par rapport à les cadres de référence qui existent et l'ONU a notamment dépensé beaucoup de temps et d'énergie avec des experts au niveau international pour élaborer un cadre de référence qui me paraît plutôt intelligent, qui s'appelle les objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies. Alors quand je parle avec mes clients et mes partenaires dans l'écosystème de l'immobilier de la ville, on me dit, et là les objectifs de développement durable c'est vraiment super, mais c'est très macro. C'est super pertinent quand on est à New York au sommet du climat, dans des échanges au niveau diplomatique, mais concrètement, au niveau de nos activités d'investissement dans l'immobilier, dans l'urbain, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un cadre très macro comme les objectifs de développement durable à l'intégration dans des démarches de responsabilité qui nous aident à être en phase avec ce cadre de référence. Autre exemple concret sur lequel on intervient chez Green Solus pour faire le lien très concrètement entre les objectifs de développement durable de l'ONU. On a par exemple un ODD, l'ODD 13, villes et communautés durables, qui concerne directement le secteur immobilier et urbain. Comment est-ce qu'on fait pour faire ce lien-là avec les certifications environnementales, par exemple, dans l'immobilier? Vous connaissez peut-être la certification HQE, haute qualité environnementale. On a aussi les certifications issues du monde anglo-saxon, BREEAM, LEED. Les certifications et les labels ne sont pas nécessairement équivalents, n'ont pas les mêmes logiques de référentiel. Donc comment est-ce qu'on fait quand les signaux de marché sont différents, sont finalement des certifications qui n'ont pas les mêmes logiques de structuration, pas nécessairement les mêmes niveaux de performance? On appuie les acteurs financiers à y voir plus clair quand on parle d'un actif vert de haut niveau aujourd'hui, un HQ excellent, est-ce que c'est comparable à un BREEAM Very Good ou un LEED Platinum? Comment est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Et Green Solus est notamment à l'origine de la première étude et la seule étude quantitative à date sur l'état des lieux des bâtiments certifiés en France et en Europe. Et on publie cette étude depuis 2014 maintenant, on l'actualise tous les ans et on fait en sorte d'approcher chaque année plus précisément la question de la valeur durable, la valeur verte. On parlait de green value tout à l'heure, j'ai tendance à parler aujourd'hui, connaissant bien le secteur immobilier et urbain, plutôt qu'on est dans une logique d'éviter la décote grise que la création de valeur, la création de valeur verte, si ce n'est que dans notre dernière édition du baromètre de la certification environnementale qui est disponible en téléchargement gratuit depuis notre site internet, nous avons croisé notre base de données des bâtiments certifiés en Europe avec une base de données des transactions immobilières. Et en fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir déceler une valeur verte en euros, plutôt qu'une valeur verte qualitative. Et bon, moi, j'aime bien à la fois le qualitatif, mais aussi les chiffres. Et c'est important de pouvoir avoir des indicateurs de mesure et de quantification. Donc, au niveau de la data, on a travaillé ça. Je vais, bon, vous inquiétez pas, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais juste finir sur cette
On va laisser un tout petit peu de temps aussi pour les autres questions éventuelles aux autres intervenants.
Oui, aucun problème. Je vais juste finir là-dessus. Donc, ça, c'est pour la partie sustainable innovation. Mais je pense que c'est important de parler concrètement de ce qu'on fait, hein, parce que c'est quand même les projets sur le terrain qui comptent. Donc ça, c'est pour la partie sustainable investment. On intervient aussi en matière de sustainable brokerage. Donc comment faire en sorte de faire le lien entre les projets, les porteurs de projets responsables et les investisseurs engagés aujourd'hui, parce que si on prend par exemple les sociétés de gestion, les gérants de fonds qui font de la gestion d'actifs classiques depuis 30 ans, aujourd'hui, échanger avec des investisseurs engagés des pays nordiques, des pays scandinaves, les attirer vers des fonds responsables, ce n'est pas nécessairement évident quand son track record n'est pas un track record dont l'ADN est green ou à fort impact sociétal. Green Solus intervient également comme intermédiaire, connaissant bien l'univers des sociétés de gestion, mais également l'univers des investisseurs engagés, très attentifs à ce qu'on peut promettre et comment on reporte sur la question environnementale, sociétale et de gouvernance. Et le dernier volet qui découle finalement des deux premiers, de l'investissement responsable et du brokerage responsable, c'est la question du reporting d'impact. C'est-à-dire, quand on parle d'obligations vertes aujourd'hui dédiées, par exemple, à des projets immobiliers verts ou à des projets urbains verts, ça signifie concrètement que son obligation, que la dette qui est levée, va servir, va être allouée à des projets immobiliers responsables. Mais encore faut-il suivre l'impact de ces projets immobiliers responsables, quelle est la méthodologie comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle soit en phase avec la promesse pour justement éviter le greenwashing et le ESG washing. Green Solutions intervient comme garde-fou sur ces sujets-là et surtout sur une assurance d'avoir une méthodologie robuste et en phase avec ce qu'est l'immobilier urbain aujourd'hui et surtout demain.
Merci. On dispose plus que de quelques brèves minutes si vous avez des questions donc, sur la solution Turbo Céréales ou aux énergies éclair. Je passe la parole à Madame.
Bonjour. Sur la solution d'efficacité énergétique pour l'immobilier, vous vous concentrez sur l'immobilier tertiaire, pourquoi pas l'immobilier résidentiel, qui, à ma connaissance, n'est pas occupé aussi pendant une partie de la journée.
Vous avez raison. Alors, j'ai cité notre segment principal qui est l'immobilier tertiaire, parce que la problématique est l'intermittence. Pour l'immobilier résidentiel, nous intervenons aussi, hein, nous avons travaillé pour Action Logement par exemple, et nous avons eu des actions très concrètes sur la précarité énergétique, puisque pour des bâtiments qui étaient Aulnay-sous-Bois, la Courneuve et Rosny, au bord de la 86, par l'optimisation en déployant notre solution, on a fait que des locataires ont eu des remboursements de charges de 500 euros hein, par rapport aux provisions. Encore une fois, par l'optimisation de l'existant. Mais l'optimisation de l'existant en résidentiel est un peu différent. L'intermittence est moindre. C'est souvent des problèmes d'équilibrage en fait, entre les différents étages. Vous avez un étage qui est défavorisé pour le chauffer à lui à 18 degrés, vous surchauffez tout le monde. Et dans les étages, les gens, pour dormir la nuit, ouvrent les fenêtres. Hein. Bon, on a beaucoup de gags un petit peu comme ça. Mais l'action en logement, c'est l'équilibrage du bâtiment et puis aussi le rendement des systèmes, des chaudières à condensation qui ne condensent pas, etc. Mais on intervient aussi là-dessus, on est capable aussi d'intervenir sur les centres commerciaux et sur les entrepôts logistiques hein, qui pouvant le plus, pouvant le moins. Juste sur la partie tertiaire, c'est quand même un gros sujet, parce que c'est quand même un gros sujet de consommation énergétique. Aujourd'hui, il y a une plateforme Opérate qui va obliger tous les propriétaires fonciers à dire comment ils vont arriver d'ici 2030 à faire les 40% d'économie, donc d'avoir un plan d'action sur l'ensemble de leur patrimoine pour être conforme à la réglementation. Donc nous, par rapport à ça, on intervient à deux niveaux. C'est-à-dire on dit déjà, sur l'ensemble de votre patrimoine, on va déjà faire 25% par l'optimisation. Donc on va déjà un petit peu se détendre par rapport à l'objectif. Et pour les 15% autres qui restent, on va vraisemblablement passer par des travaux. Donc nous, on est agnostique par rapport aux travaux. On n'est pas en train de dire qu'on va faire de travaux ou quoi que ce soit. Mais les travaux, on en attend souvent des économies d'énergie. Et bien souvent, elles ne sont pas forcément atteintes. Parce que quand on dimensionne des travaux, on a des logiciels de calcul qui ne sont pas forcément aussi bien calés que ce qu'on peut nous avoir avec nos capteurs. Par exemple, là, j'ai un capteur qui est dans ma veste. La température qu'on a aujourd'hui, c'est 26 degrés actuellement. Dans la pièce ici, le taux de CO2 ici, c'est 2000 ppm, 2000 particules par million. Quand on sait qu'à partir de 1100 particules par million, on a des gens qui commencent à piquer du nez. On a des bactéries qui se développent, donc si quelqu'un a un virus ici, il va proliférer pour peu que la ventilation soit bien en interne dans le bâtiment, tout le monde va être malade dans quelques jours, donc avec des conséquences, enfin tout le monde, quelques jours va être malade, je ne veux pas dramatiser non plus, quelques personnes vont être plus malades, donc ça va générer des jours d'absentisme, etc. On sait aussi que vraisemblablement la température qui est à 25, maintenant, cette nuit, à la même temps, à minuit, on va être à peu près à 23-24, dans le meilleur des cas. Donc, si je reviens sur cet exemple-là, sur ce bâtiment ici, dans une optique d'efficacité énergétique par rapport à la loi Elan. La question, c'est comment on va faire pour avoir 40% d'économie d'ici 2030. Il y a une partie qui va déjà être d'optimiser le bâtiment, de gérer l'intermittence la nuit, et puis après de compléter ça par des travaux. Et une fois qu'on fait des travaux, de suivre que les économies vont effectivement être réalisées. C'est-à-dire que si on continue à mal régler le bâtiment, même si on a fait des travaux, on ne va pas obtenir les économies d'énergie. Et ça rejoint ce que vous disiez sur le résidentiel. On a des tas de bâtiments résidentiels. On a tout le parc, une bonne partie du parc d'Action Logement, par exemple. On a plus d'une centaine de bâtiments, enfin d'ensemble immobilier avec plusieurs bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments où ils ont fait des travaux d'isolation. Et bien finalement, on consomme plus après qu'avant. Pourquoi ? Parce que si vous êtes avec des planchers chauffants en résidentiel et que vous ne faites pas les réglages, vous isolez le bâtiment, la température augmente. Et pour dormir la nuit, qu'est-ce que font les gens ? Ils ouvrent les fenêtres. Donc en fait, vous avez un bâtiment qui est à peu près étanche, relativement mal isolé, et vous avez un bâtiment qui à la fin est bien isolé, mais qui n'est plus du tout étanche parce que les gens ouvrent les fenêtres. Donc il y a tout un tas de paradoxes comme ça qui fait que dès lors qu'on ajoute de la complexité dans un bâtiment, à travers les travaux, si on n'a pas des solutions de compréhension de cette complexité et d'adaptation des réglages, et ce que les mainteneurs en général ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire, c'est une question de mauvaise volonté, on aboutit à l'inverse du résultat visé, c'est-à-dire qu'on a fait des travaux, donc on a pollué, parce que les travaux souvent c'est quand même polluant, et en plus on n'a pas obtenu les économies attendues, donc en fait on est dans quelque chose qui peut être un petit peu aberrant par rapport à l'objectif initial. Et je termine juste pour dire que l'enjeu de cette approche d'optimisation est extrêmement important. Si on déployait notre solution, on a fait un calcul, si on déployait notre solution au niveau français sur les bâtiments publics, privés et publics, sur les bâtiments de plus de 5000 m², on économiserait dans la facture énergétique 2 milliards d'euros. Et en pollution, ça ferait l'équivalent de 2 pleins d'essence par conducteur. Et ça serait une solution qui serait déployable rapidement puisqu'elle ne nécessite pas de travaux. Ça n'empêche pas de faire les travaux, il y a des bonnes raisons de les faire. Mais on a beaucoup de choses à faire par l'optimisation, en amenant de l'intelligence et de la traçabilité.